Épilogue. On a mis le cadavre du Grax avec les autres dans l'ancien four à pain. Nous avons raconté à papa tout ce qui s'était passé dans le feu de Dieu pendant son absence. Lui nous parle de son périple, souvent après le repas du soir, quand nous sommes réunis devant le poêle, et nous pouvons mesurer les épreuves terribles qu'il a dû traverser. Théo avait raison. Il a bel et bien affronté des ours blancs. Il a changé. Je redécouvre mon père, cet homme qui était toujours resté pour moi un étranger, un mystère. Lui aussi, sans doute, parce qu'il n'arrête pas de nous serrer contre lui, de nous embrasser, de nous toucher, de nous dire qu'il nous aime. Je reconnais plus ma mère, la femme effacée et terne d'avant. Elle semble avoir rajeuni de 10 ans tout à coup. Elle chante et rit sans cesse. Elle et mon père se sont chargés des réparations urgentes. Ils ont établi un nouvel inventaire des ressources et en ont déduit que nous pouvions encore tenir 7 ou 8 ans sans problème. Non seulement les humains, mais aussi les fouines et les chiens. Théo s'est mis à pousser à la vitesse d'une courgette. Il me dépasse déjà d'une demi-tête. Sa voix mue, des poils épars et pas très beaux pour l'instant, lui pousse sur les joues et le menton. Je lui ai demandé ce que ça lui avait fait de tuer le Grax. Il m'a simplement répondu « C'est comme ça que ça devait finir. J'étais prêt. Et lui aussi. » Quand il va pas rendre visite aux fouines, il passe beaucoup de temps avec les chiens qui promènent tous les jours sur le causse. Papa a refusé qu'on referme le portail. Il dit que nous ne devons pas nous enfermer, nous replier sur nous-mêmes, mais au contraire, nous ouvrir au maximum. Si d'autres gens se présentent, nous leur proposerons de partager nos ressources. Ils pensent que nos chances de survie diminueront si nous persistons dans l'illusion sécuritaire. Il y a de nombreux groupes de survivants sur la Terre, pas seulement ceux que mon père a rencontrés, mais d'autres dont nous avons capté la présence. Oui, capté. Je sais pas comment ils font, mais Souria et Théo semblent déteindre sur nous. Souria est longtemps restée entre la vie et la mort, après que Théo et maman l'ont récupérée sur le causse. Fiévreuse, pâle, immobile. Puis, elle est revenue à la vie avec la même grâce qu'elle avait failli en sortir. Je l'ai immédiatement considérée comme ma petite sœur. Comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Tout le monde l'adore. Papa nous a raconté comment il l'a recueillie dans un train de banlieue renversé, comment sa mère agonisante la lui a confiée en lui faisant promettre de la mettre en lieu sûr. Il pense qu'elle n'est pas arrivée dans sa vie par hasard et que Théo et elle sont les maillons d'une nouvelle chaîne d'évolution. Il l'a pas précisé, mais je suis persuadé que c'est elle qui l'a choisie. C'était avec mon père, elle le savait, qu'elle avait le plus de chances de survivre. Et elle s'est débrouillée pour l'attirer près de sa mère agonisante. Ils sont entrés en symbiose, un joli mot que j'ai piqué dans le dico. Comme deux animaux qui ont besoin l'un de l'autre pour survivre dans un environnement hostile. Elle avait besoin de sa force, de son intelligence. Il avait besoin de ses perceptions. J'ai demandé à mon père pourquoi Théo avait reçu ses dons à la naissance et pas moi. Nous avons pourtant les mêmes parents, les mêmes gènes. Il m'a dit en riant que je suis un spécimen très réussi de l'ancien règne, que l'évolution reste mystérieuse, que j'ai beaucoup de chance d'assister à l'émergence d'une nouvelle espèce, comme de Néandertal à Sapiens. Si j'ai bien compris, je suis un vestige, un beau, hein, de Sapiens. Théo et Souria sont des représentants de quoi au juste? Souria ne parle toujours pas. On ne sait pas si elle recouvrera l'usage de la parole un jour, mais elle se débrouille pour communiquer autrement. Parfois, lorsque nous nous tenons tous les 5 en silence, tandis que le blizzard souffle comme un taré dehors, nous avons l'impression que nos esprits entrent en contact. Des images m'apparaissent, qui me montrent le monde extérieur, les villes et les forêts pétrifiées, les failles profondes, les éruptions volcaniques, les majestueux fleuves de lave qui serpentent dans les plaines blanches. Et puis, des groupes humains disséminés dans des abris profonds, qui, comme nous, guettent le retour des jours meilleurs. Nous n'avons plus besoin de réseaux informatiques pour être reliés les uns aux autres. Je suis maintenant persuadé que tôt ou tard, nous nous retrouverons avec les autres survivants, et que nous fonderons une nouvelle humanité. Ma peur de ne jamais connaître l'amour s'est envolée. Il me faut seulement faire preuve de patience et prendre les choses telles que la vie me les offre. Tu vois, mon lecteur des temps futurs, j'ai retrouvé le goût de la vie. Et pas seulement parce que nous en avons fini avec la tyrannie du Grax. Parfois, je prends Souria dans mes bras et nous restons toutes les deux pelotonnées des heures sur le fauteuil dans la chaleur agréable du poêle. J'ai l'impression de la connaître de mieux en mieux. Elle me raconte son histoire à sa façon. Elle me transmet des images et des sensations. Beaucoup de lumière, de soleil en elle, de couleurs vives, d'odeurs d'épices et de saveurs de miel. Elle dort avec moi et toutes les deux nous pouffons lorsque nous entendons des soupirs en provenance du lit de mes parents. J'ai eu 20 ans hier. Et pour cadeau d'anniversaire, une première lueur dans le ciel. Une clarté encore diffuse, qui a écarté les ténèbres et plaqué la neige d'une teinte argentée. Incroyable ! La beauté et le pouvoir de la lumière. Comme si tous nos cauchemars se dispersaient d'un seul coup. Comme si nos âmes se mettaient à briller, à chanter. Papa a gardé un long moment les yeux levés sur le ciel et a dit d'un ton joyeux « C'est le commencement ». Vous venez d'écouter « Le feu de Dieu » de Pierre Bordage, lu par Emmanuel Lemire, une production Audible Studio.